La sculpture des origines à nos jours. Une sculpture se définit comme une création de formes dans un espace réel en trois dimensions, modelée, fondue, construite à partir de matériaux variés tels le bois, la pierre, le métal, l'argile, l'os. La sculpture moderne a aussi fait sienne les matériaux comme la glace, l'eau sous forme liquide, les cristaux, le sable ou le textile. L'œuvre sculptée peut se concevoir selon deux notions, celle de figuration dans l'espace ou d'intégration dans un décor. La sculpture préhistorique. Les premières représentations sont des statuettes féminines ou anthropomorphes. L'art figuratif apparaît entre -33 000 et -26 000. Le site de Vogelhörde en Allemagne a livré des statuettes humaines et animales. Galgenberg en Autriche a fourni une figurine humaine datée de -32 000 ans. La représentation féminine domine alors largement la statuaire. Vénus de Willendorf, Vénus de Brassempouy, en pierre ou en argile cuite comme à Dolny-Vestonice. Mais il existe aussi des abris sous roche avec des figures gravées, comme aux Aisies, en Dordogne, datant de -21 000. Les représentations pariétales sont faites le plus souvent sous forme de figures humaines à prédominance féminine, très souvent asexuées, d'empreintes de mains peintes ou gravées, de signes géométriques et d'animaux. La sculpture dans l'Antiquité. La sculpture est un art répandu dans toutes les civilisations de l'Antiquité, mais chacune d'elles explore ses propres matériaux, formes et usages. En Mésopotamie, par exemple, avec l'art sumère puis de Babylone, une grande statuaire de pierre ou de métal apparaît dès le troisième millénaire. Statue du prêtre-roi Goudé de Lagash, code d'Amourabi sur une stèle de basalte noir. En Chine, le bronze et le bois sont utilisés, la pierre vient un peu plus tard. Les bronzes Chang, datés du XIVe siècle avant Jésus-Christ, sont célèbres pour l'extraordinaire qualité de leurs énormes vases votifs. Le Japon connaît une statuaire plus tardive et tournée vers la religion, les images du Bouddha. L'Inde, à Mohenjo-Daro, s'impose dès le deuxième millénaire comme un centre exceptionnel de la sculpture et connaît son apogée au Ve siècle avec la période Gupta. Vers la même époque, la statuaire égyptienne se développe, utilisant même parfois le bois à l'ancien empire au troisième millénaire pour représenter des fonctionnaires. Les conventions de posture y sont toujours les mêmes, debout, les bras le long du corps, pied gauche toujours avancé. Les couleurs sont les mêmes que celles qui représentent le corps sur les bas-reliefs, un brun plus foncé pour les hommes, plus clair pour les femmes. La sculpture dans la Grèce classique, 5e siècle avant Jésus-Christ. L'art des sculpteurs antiques trouve en Grèce sa pleine expression. Là, elle évolue constamment à partir du 7e siècle, époque des courées et couros, jeunes femmes et jeunes gens dont la représentation porte encore la marque de l'influence égyptienne. Monolithisme des formes et pied gauche avancé. Mais l'âge d'or demeure celui de la période classique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le premier classicisme, 500-450. Miron est surtout connu pour son discobole, athlète représenté au moment où il va jeter le disque. Polyclète travaille surtout le bronze et définit les proportions du corps masculin au travers de ce que l'on appelle un canon. La tête d'une sculpture doit représenter 1/8 de l'ensemble du corps. Il a sculpté le doryphore, guerrier portant son javelot, et le diadumène, athlète dont le front est ceint d'une bandelette en signe de victoire. Phidias est surtout célèbre pour sa statue monumentale de Zeus à Olympie. Décorée d'or et d'ivoire, elle mesure plus de 10 mètres de haut. Le second classicisme, 450-400. La sculpture est alors représentée par Praxitèle, qui travaille de préférence le marbre. Ses principales œuvres sont Aphrodite de Cnide, Satyre au repos, Hermès portant Dionysos. Lysippe, lui, est surtout bronzier. Il s'attache à rendre la souplesse des corps et le réalisme des athlètes dans l'effort. Son chef-d'œuvre est l'étrieur, appelé aussi l'apoxiomène. Il faut attendre le IVe siècle pour que l'art se libère du géométrisme des siècles précédents. L'influence de l'Orient. Avec l'apparition et le développement des nouvelles monarchies hellénistiques après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, les capitales artistiques deviennent plus nombreuses. Rhodes, Pergame, Alexandrie et non plus seulement Athènes. La sculpture s'orientalise. À Pergame, une école monumentale prend son essor avec le grand autel de Zeus, illustrant sur 120 mètres de long la gigantomachie, le combat entre les dieux et les géants. C'est à un maître rhodien que nous devons la victoire de Samothrace. La personnalisation des traits, le vérisme sont alors les aspects dominants de la sculpture. La sculpture romaine. La sculpture romaine subit la double influence des Étrusques et des Grecs. Outre la reproduction de la statuaire grecque, elle développe la décoration des grands monuments commémoratifs. La colonne Trajane, construite entre 110 et 113, l'arc de Titus, construit entre 80 et 85, et l'arc de Constantin, construit entre 313 et 315. Dans beaucoup d'ateliers, les artistes signent leurs œuvres. La plupart des œuvres sont en fait celles de Grecs ou d'Orientaux hellénisés. L'année 146 avant Jésus-Christ, où toute la Grèce est conquise, marque le contact avec la sculpture hellénistique. Deux types de sculptures se distinguent. Des copies de l'art grec ou des pastiches faits au goût des amateurs romains. Les artistes optent pour le portrait délaissé par les Grecs, la demande des Romains s'imposant en ce sens. Parfois, l'individu est représenté avec les traits d'un dieu ou d'un héros, ainsi que le feront les artistes du XVIIIe siècle. Le plus célèbre de ces portraits est celui d'Antinous, un bithynien, antique pays au nord-ouest de l'Asie mineure, au bord de la mer Noire, célébré pour sa beauté. L'étude des coiffures permet de dater ces portraits. Les rouleaux de cheveux tirés sur le front disparaissent à l'époque impériale, le port de la barbe caractérise l'époque de l'empereur Hadrien. Sous Caracalla, la tête est tournée de côté, le front sillonné de rides. La sculpture au Moyen Âge. Le Moyen Âge n'est pas, contrairement aux idées reçues, oublieux des arts. La diversité et la vivacité des écoles de sculpture en sont une preuve. La sculpture romane. C'est seulement en 1820 que l'historien de l'art Charles de Gerville crée le qualificatif d'art roman pour désigner toute l'évolution artistique de la période précédant le gothique. On considère que le roman débute au XIe siècle, période de grande instabilité due à la Constitution, alors à ses débuts des principales monarchies en Europe. Les artistes ont recours aux symboles. Dans les églises, les scènes doivent rappeler aux fidèles qui n'ont pas accès aux Écritures les principaux épisodes de la Bible. Le portail ouest est orné de représentations des démons pour maintenir tout ce qui est diabolique hors de la partie consacrée de l'église. La sculpture gothique. Alors que la sculpture romane est encore bien vivante, un art nouveau naît au cours du XIIe siècle, celui de la sculpture gothique, dont les formes longilignes sont une aspiration à l'élévation spirituelle, à un moment où les cathédrales se hissent-elles aussi vers les sommets. À l'intérieur des églises, les personnages se dégagent de plus en plus des piliers ou des colonnes sur lesquels ils étaient traditionnellement représentés. De nouvelles esthétiques s'imposent peu à peu, fondées sur une représentation plus délicate, dite maniériste. De nouvelles façons de capter la lumière apparaissent. La sculpture de la Renaissance. Les grands architectes sont aussi les grands sculpteurs. Ils vont donner une importance considérable à la ronde bosse, sculpture autour de laquelle on peut tourner et renouer sur beaucoup de plans avec l'Antiquité, en choisissant notamment la nudité et la liberté extrême du mouvement. Le XVe et le XVIe siècle exaltent et magnifient la puissance du corps humain. C'est l'époque de Verrocchio et de Mino da Fiesole. Au début du XVe siècle, la grande majorité des sujets sont encore d'ordre religieux, quand le XVIe siècle est volontiers profane. Donatello, 1386-1466, réalise des sculptures tourmentées. Mino da Fiesole exécute de nombreuses sculptures funéraires, dont le tombeau de Paul II. Verrocchio, qui eut comme élève le Pérugin, Botticelli, Léonard de Vinci est l'auteur du David en 1476 et de la statue commémorative du Condottiere. Michel-Ange s'impose rapidement en 1499 avec la Pietà à Saint-Pierre de Rome et le David. Après 1515, il travaille au tombeau de Jules II pour lequel il sculpte des esclaves, puis le Moïse. De retour à Florence, il conçoit la façade de Saint-Laurent et les tombeaux de Laurent et Julien de Médicis. La sculpture baroque et classique. La sculpture baroque et classique du XVIIe au début du XVIIIe siècle utilise les ressources de la peinture et de l'architecture. En Italie, le sculpteur le plus notable est Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, dont Apollon et Daphné montrent une jeune nymphe poursuivie par Apollon se transformant en laurier. Daphné en grec. En France, le XVIIe siècle montre plutôt une sculpture classique. Les artistes réalisent des bustes ou des œuvres décoratives. Pierre Puget, surnommé le Michel-Ange français, et son Milon de Crotone, François Girardon, Antoine Coisevox sont les représentants de ce classicisme français. Après les fastes de Louis XIV, deux sculpteurs vont s'illustrer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle par leur art raffiné et subtil. Jean-Antoine Houdon, qui excelle dans l'art du portrait, celui de Voltaire par exemple, et Jean-Baptiste Pigalle, dont le nom a été donné à un quartier de Paris. Il peint par exemple le mausolée du maréchal de Saxe.
La sculpture au XIXe siècle. Au XIXe siècle, le caricaturiste Honoré Daumier laisse une série de bustes impitoyables. L'animalier Antoine-Louis Barye s'illustre également, ainsi que Jean-Baptiste Carpeau, sculpteur des groupes au mouvement fluide, dont la danse, réalisée pour le Nouvel Opéra de Paris, provoque par sa lascivité l'indignation bourgeoise. Malgré l'audace de David d'Angers, la rupture véritable se fait avec François Rude, 1788-1855. Dans Le départ des volontaires, rebaptisé la Marseillaise, qui orne l'arc de triomphe de l'étoile, monumentale allégorie des volontaires de 1792, il donne au haut relief une vie nouvelle. N'oubliez pas, l'art à la folie. Considéré comme le précurseur de la sculpture moderne, Auguste Rodin, 1840-1917, est animé d'une puissance créatrice hors du commun. Son séjour en Italie en 1875 est décisif pour la suite de ses œuvres, notamment son réalisme, que certains jugent outrancier. Commande de l'État, porte monumentale destinée au Musée des Arts Décoratifs de Paris, la Porte de l'Enfer comprend quelques 200 figures dont le sujet est tiré du premier chapitre de la Divine Comédie de Dante. Le sculpteur entretient une passion tumultueuse avec son élève, Camille Claudel, 1864-1943, sœur du poète Paul Claudel. Livrée à la misère, Camille perd la raison et est internée définitivement à partir de 1913. Ses œuvres témoignent de l'influence du maître et de ses propres tourments. L'âge mûr, l'imploration, la valse, la vague.
La sculpture au XXe siècle. Au XXe siècle, la sculpture s'investit dans plusieurs recherches de formes différentes, tout en restant liée à une figuration réaliste. Elle connaît son plein développement entre 1920 et 1940. Antoine Bourdel, qui manifeste un goût prononcé pour le monumental, comme dans Héraclès Archer, Aristide Maillol et ses nus féminins lisses et arrondis, qui lui permettent des effets de masse, sont les grands noms du début du siècle. À partir de 1907, des sculpteurs qui sont aussi des peintres cubistes, comme Matisse, Picasso et Braque, développent des tentatives. L'espace est envisagé comme projection mentale par Alexander Archipenko, Ossip Zadkine avec son hommage à Van Gogh et Constantin Brancusi, qui invente des formes liées à une quête mystique personnelle. Les œuvres de Jean Harpe évoquent des croissances naturelles, concrétion humaine, et Marcel Duchamp invente l'objet sculpture dans « Roue de bicyclette » par exemple, un objet courant transformé en objet d'art appelé « ready-made ». Alberto Giacometti s'illustre notamment avec « L'homme qui marche ». César Baldaccini, dit César, se livre à des assemblages métalliques, par exemple des compressions de carrosserie de voiture. Il est l'un des principaux représentants du réalisme en France. Jean Tingly, lui, récupère des objets quotidiens métalliques et les assemble tandis qu'un moteur les anime, le cyclope. Nicky de Saint-Phal utilise des matériaux variés, céramique colorée, verre, étoffe, plastique, et met en scène des héros populaires. King Kong, sportif, le jardin des tarots. Sans doute, Alexander Calder a-t-il inventé les formes les plus audacieuses avec ses mobiles et autres œuvres au mouvement perpétuel. L'ingénieur rejoint les préoccupations de l'artiste. Dans le cirque de Calder, des figurines réalisées en fil de fer jouent le rôle des forains, animées par Calder lui-même sur un fond musical traditionnel de cirque.